Bonjour mesdames, messieurs. Donc, je vous remercie d'être venus ce soir à l'espace Mades France qui nous reçoit une nouvelle fois et que je remercie. Je m'appelle Jean-Jacques Chavagna, je suis psychiatre d'adultes, d'enfants et d'adolescents et ici, surtout comme médecin coordonnateur du centre de soins, d'accueil et d'accompagnement pour les soins en addictologie. Comme vous l'avez vu, il y a des petites plaquettes ici, donc il y a plusieurs unités dans ce service, des unités pour des plus jeunes, des unités pour des types d'addictions différents, etc. Donc n'hésitez pas à regarder les plaquettes et à vous en servir et à nous contacter si vous avez des soucis. Alors, ce soir, nous sommes particulièrement heureux de recevoir Elisabeth Rosset, qui a déjà officié cet après-midi pour parler des plus jeunes. Ce soir, on va parler des personnes un peu plus âgées. Voilà. Mais on peut parler aussi un peu plus largement, bien sûr, des plus jeunes, si vous avez des questions tout à l'heure. Alors, je vais être accompagné aussi de psychologues qui s'occupent également au XAPA de ces sujets. Aline Ménoret, voilà, et je la remercie, qu'elle était là déjà cet après-midi, voilà, donc elle fait des prolongations, moi j'ai pas pu venir cet après-midi, mais on m'a dit que c'était très bien, donc ce soir, ça va être sûrement aussi très bien. Voilà, alors, un petit mot juste pour commencer, et je cite quelques mots d'un article de Marc Valeur. Je cite, à Rome, en l'an 2000, un homme est hospitalisé après avoir navigué sans interruption durant 3 jours et 3 nuits sur Internet. Au Danemark, un individu avoue envoyer en moyenne 217 messages SMS par jour et payer une facture d'environ 2000 euros tous les trimestres. Conscient de ses problèmes, il se rend dans une clinique pour subir une cure de désintoxication au portable. La Suisse est le premier pays à créer un groupe de rencontres pour, entre guillemets, les drogués d'Internet. On y estime que 3% des abonnés sont victimes du phénomène, ce qui représenterait environ 50 000 personnes dans ce pays. Voilà, voilà quelques mots pour présenter un peu le sujet. Je ne vais pas en dire davantage, on en discutera un peu tout à l'heure, et pour permettre à notre conférencière d'exposer son idée tranquillement, voilà, dans une petite heure, voilà, et ensuite pour qu'on ait un temps d'échange, je propose à Elisabeth Rosset de commencer. Voilà. Merci beaucoup.
Et merci à vous pour cette invitation, merci pour cette présentation qui ne met pas du tout la pression, hein, que ça soit bien ce soir aussi, j'espère. Très bien. Bon, on va essayer de faire comme ça. Donc, effectivement, je travaille à l'hôpital Marmottan. L'hôpital Marmottan, donc, c'est le lieu où travaillait le docteur Marc Valeur. C'est un lieu qui a été fondé par le professeur Claude Olivenstein. Et au départ, c'est un lieu qui était initialement, historiquement, dédié aux personnes toxicomanes. Et à partir du début des années 2000, un peu à cause du docteur Marc Valeur, faut bien dire, qui s'intéressait de près à la problématique des joueurs de jeux de hasard et d'argent, on a vu arriver des gens qui nous parlaient de leur addiction aux jeux vidéo. C'est un peu comme ça que cet hôpital dédié aux personnes toxicomanes a commencé à recevoir des accros aux écrans, plus généralement, parce qu'on suivit les accros aux sites pornographiques, les joueurs de jeux de hasard et d'argent aussi sur Internet, et c'est comme ça que s'est créée petit à petit une consultation un peu spécifique liée au dispositif d'Internet. Voilà un petit peu pour comment est-ce qu'on en est arrivé à s'occuper de des personnes qui ont des difficultés avec ces fameux écrans. Alors les écrans ou la cyberaddiction, de quoi ça cause, de quoi il s'agit ? On s'est mis à parler surtout de cyberaddiction et de problématiser autour des écrans, surtout avec l'apparition d'Internet. Or, Internet, c'est une technologie de l'information et de la communication particulière qui a émergé à la fin des années 90 et qui a explosé là au début des années 2000 et qui a pris une place prépondérante, même, comment dire, inévitable dans nos existences à chacun d'entre nous aujourd'hui. Qui peut se passer d'Internet ? Pas grand monde, je crois. Voilà. Les caractéristiques propres de cette communication, de cette technique d'information et de la communication, sont l'interactivité. Ah oui, avec Internet, c'est pas comme avec la lettre. Hein. J'envoie une lettre et puis j'attends quelques temps qu'on me réponde. Là, dans cette communication avec Internet, c'est direct, en direct. L'instantanéité, c'est une autre caractéristique de cette communication, c'est-à-dire que c'est dans la minute ou dans la seconde quasiment que je sais que celui à qui j'adresse ce message va pouvoir le recevoir et peut-être éventuellement y répondre. Cette notion d'instantanéité, elle induit elle-même une espèce de tension, nous racontent certaines personnes, puisque à partir du moment où ils ont émis leur mail, ils savent que la personne à qui ils l'adressent l'a reçu et ils sont déjà dans l'attente de la réponse qu'ils pourraient espérer. Et certains racontent à quel point ça les met déjà en tension, cette idée d'instantanéité. Et puis enfin, Internet propose une communication, alors je ne savais pas trop comment la qualifier, j'utilise le terme d'ubiquité, qui renvoie à cette idée d'être dans deux lieux à la fois. Parce qu'avec Internet, on est au fond de sa chambre, devant son ordinateur, face à son bureau, et en même temps, on peut être en train de visiter un autre coin du monde, on peut être aussi pris dans un jeu vidéo passionnant, on peut être dans une salle de casino, en quelque sorte. Donc finalement, Internet et ce type de communication offrent la possibilité d'être dans deux lieux à la fois. Ces caractéristiques, ce qu'elles engendrent, c'est un effacement des limites spatio-temporelles dont on avait l'habitude auparavant dans ce monde matériel, la réalité physique et matérielle. Et donc ça signifie qu'on a à trouver de nouveaux repères dans ces espaces proposés par les écrans, en fait, de nouvelles limites. Ajoutons que le potentiel d'Internet, c'est son accessibilité. Aujourd'hui, la quasi-majorité des foyers français sont équipés d'Internet. Et Internet, c'est 24 heures sur 24. À tout moment, je peux m'y rendre. C'est quand même un aspect très important, notamment quand on pense aux questions d'addiction. On a des patients, par exemple, joueurs de jeux de hasard et d'argent, qui vont résister toute la journée aux envies de jouer, qui vont éviter un certain nombre de points de vente de jeux, par exemple, et qui vont craquer à 22-23 heures parce qu'à ce moment-là, ils se sentent plus faibles et ils vont craquer et Internet leur permet ce craquage sans se déplacer, c'est-à-dire en restant chez soi. C'est aussi une notion très importante. Autre potentiel d'Internet, c'est l'anonymat. Je suis derrière mon écran et mon écran me protège, ne révèle pas ma véritable identité. Et d'ailleurs, ça peut faire partie du jeu que de se présenter sous une identité différente au travers de ces espaces qu'est Internet, l'espace qu'est Internet. Autre potentiel d'Internet, c'est le potentiel de désinhibition. En effet, et sans doute parce que je me sens protégée par cet écran, on va oser plus de choses face à l'écran par rapport à une autre personne que si on est directement en contact, je dirais une fois de plus charnel, là, physique, avec quelqu'un. Il y a beaucoup de personnes qui disent là, dans le mail, je lui ai balancé un truc que je n'aurais sans doute pas osé dire si j'avais été en face à face avec cette personne. Donc on voit comment toutes ces caractéristiques et tout ce potentiel modifient déjà nos relations les uns aux autres et nous a fait développer de nouvelles pratiques de communication entre nous et sans doute avec nous-mêmes. Les éléments de cette forme de communication sont les écrans, et c'est aussi un peu le thème de notre conférence, les écrans. Alors, les écrans, c'est quand même une invention relativement récente. Hein, les écrans, le premier écran, c'est l'écran de cinéma. Ça date du début du XXe siècle, somme toute. Il avait déjà été à l'origine de certaines inquiétudes, hein, d'enthousiasme aussi. On a vu arriver le cinéma avec joie, un premier loisir, etc. Et puis aussi un peu d'inquiétude à se demander, mais qu'allaient donc faire ces gens dans ces salles obscures, en pleine journée, peut-être se livrer à des rites, on ne savait pas trop. Déjà, pour ce premier écran, en tous les cas, il y avait eu de l'inquiétude. Le deuxième écran, le plus connu, c'est l'écran de télévision, et celui-ci se distingue sur deux aspects de ce premier écran de cinéma. C'est que au cinéma, on est dans une lumière projetée, comme ici avec l'écran qui nous permet de voir les slides, alors que avec l'écran de télévision, la lumière va être directement projetée dans nos yeux. Ça change en fait notre rapport à l'image, c'est-à-dire que l'effet de captation et l'effet de stimulation sur notre cerveau est plus important avec des écrans d'ordinateur ou des écrans de télévision qu'avec une lumière projetée où il y a un autre intermédiaire. Voilà. Et donc ça, c'est un des aspects que change la télévision par rapport au cinéma. Le second aspect, c'est qu'on n'a plus à se déplacer. Hein. La télévision, elle arrive dans les foyers, parfois au cœur des foyers, et ça va aussi changer nos pratiques par rapport à ces supports et ces images qui sont en train de se développer au XXe siècle, à ce moment-là. Et puis, l'écran de l'ordinateur, celui qui rassemble tout, celui qui permet de communiquer avec le monde entier, celui qui est source d'enthousiasme, parce que c'est quand même une sacrée avancée technologique, et celui aussi qui engendre un certain nombre d'inquiétudes. Notamment, on accuse facilement l'écran d'ordinateur d'encourager la paresse ou un certain nombre de comportements pathologiques, dont l'addiction. La paresse et la violence, d'ailleurs. C'est souvent ce dont on accuse ces écrans. Et puis, ces écrans, ils se sont déjà modifiés, puisque aujourd'hui, L'écran nous suit partout, l'écran est dans notre poche, c'est notre téléphone portable, on a tous des mini-écrans dans nos poches, c'est le bonheur portatif, à peu près. Et sans compter que, par ailleurs, dans tous les lieux publics aujourd'hui, évidemment dans des objectifs de communication plus efficaces, on trouve des écrans à propos de tout, des écrans informatifs, mais il y a aussi des écrans de publicité. Il y en a un peu partout, mais on est un peu dans un moment où il y a une multiplication comme ça des écrans. Alors ces écrans, Stigler les qualifie d'outils, Stigler qui est un philosophe, les qualifie d'outils de captation de l'attention. Je trouve que c'est une manière de les caractériser qui est intéressante, puisque ce qu'il rappelle, c'est ce phénomène d'hypnose que créent les écrans. Et je le disais déjà à la conférence précédente, les conférenciers adorent utiliser le PowerPoint parce que, effectivement, quand on projette une image sur un écran, eh ben, ça concentre les gens. Les gens ont plus de concentration vers l'écran et donc, du coup, ils sont plus silencieux, plus attentifs. Et évidemment, en tant que conférencier, on a un gain. On a l'impression que les gens sont plus attentifs et c'est plutôt agréable. Donc, il y a un effet d'hypnose des écrans, un effet, ce qu'on appelle l'effet scintillant. C'est un peu un effet similaire à ce qu'on peut ressentir quand on regarde un feu. Hein, on peut regarder les flammes du feu pendant très longtemps. Ça capte notre attention, on ne sait pas trop à quoi on pense, mais ça nous attire. Et ben, ces écrans, ils ont à peu près le même effet sur nous, c'est-à-dire que quand un écran est allumé, on ne peut pas s'empêcher d'aller le regarder et ça nous capte. Et souvent, d'ailleurs, ajoutons à cela que ces écrans, ils ont comme caractéristique d'être chronophages. C'est-à-dire qu'on a souhaité s'y rendre pour juste regarder ses mails et puis finalement, on y a passé bien une demi-heure de plus parce que bon, on s'est laissé entraîner par « Ah bah tiens, bah je voulais regarder ça, et puis tiens, il y a cette proposition, etc. Et » Et finalement, on y passe beaucoup plus de temps que ce qu'on avait envisagé au départ. Autre aspect aussi concernant ces écrans, c'est le type d'attention qu'ils nécessitent. Or, ce qu'on a remarqué, en tous les cas avec la télévision, c'est avéré, mais face à la télévision, on est dans une position de passivité. eh bien, on a remarqué que ces écrans de télévision, par exemple, développaient essentiellement une attention superficielle. C'est-à-dire que face à la télévision, ça ne nécessite pas chez moi la mise en œuvre de fonctionnement psychique profond, pas du tout. Au contraire, je peux être dans une attention très superficielle, je peux avoir d'autres activités en ayant la télé allumée et ça ne m'empêchera pas de comprendre le programme qu'on est en train de me proposer. Avec l'ordinateur, c'est un peu différent parce que l'interactivité, justement, est plus importante et je ne suis plus uniquement spectateur, je suis aussi acteur dans ce rapport à l'écran. Ce qui fait que l'attention qui va être développée dans les programmes liés aux ordinateurs, c'est autant pas mal d'attention superficielle et un peu d'attention profonde. Alors, c'est un reproche qui est fait aux écrans, cette histoire d'attention superficielle. Et qui semble être très en opposition avec ce qui se passe dans le milieu scolaire. Hein, parce que dans le milieu scolaire, on a besoin de cette attention profonde pour pouvoir développer un certain nombre d'apprentissages. Or, il semblerait qu'aujourd'hui, on ait plus de capacité d'attention superficielle que d'attention profonde. Et il y a des études qui commencent un peu à montrer du doigt ces fameux écrans qui ne favoriserait pas cette attention profonde. Il y a les images. Les images aussi, c'est assez nouveau, finalement, dans nos sociétés, puisque, somme toute, pendant des siècles, on a vécu quasiment sans images, quelques dessins, mais c'était pas, l'image n'était franchement pas au premier plan, alors que, dans nos sociétés actuelles, les images sont partout. Elles sont plus que présentes, elles sont omniprésentes et elles sont même devenues, c'est même central dans la communication, je dirais. Or, les images, ce qu'on oublie souvent, c'est que c'est une perception d'abord qui s'impose à nous. Le seul moyen de ne pas voir une image, c'est de fermer les yeux. Si vous ne fermez pas les yeux, vous verrez l'image et votre cerveau traitera les informations de manière à ce que vous voyez cette image, et donc vous ne pouvez pas y échapper, et qui nous fait oublier souvent qu'il y a un cadrage. C'est-à-dire que les images qui nous sont montrées, elles montrent ce que celui qui les a fabriquées a envie de nous montrer. Alors que souvent, nous, en tant qu'observateurs de ces images, on a le sentiment que c'est la vérité, une espèce de vérité, puisqu'il y a cette image, voilà. Et ça nous fait perdre un peu cette critique à l'égard de l'image. Je pense qu'on a un manque au niveau de l'éducation à l'image. On ne fait pas suffisamment d'éducation à l'image. On n'explique pas suffisamment comment analyser une image, comment prendre de la distance aussi par rapport aux images, à l'image. Et alors, actuellement, on est vraiment pris dans un flux d'images, on est même enregistré. Maintenant, il y a beaucoup tout ce rapport à l'audio, on enregistre ces images, des flux d'images, qu'est-ce qu'on va en faire? Tout ça dans une société de consommation. Hein. Alors, c'est ce que je disais tout à l'heure, multiplication des images, des écrans. L'addiction, est-ce que ça ne se poserait pas un peu là comme une sorte de limite, puisque l'addiction, c'est comme si je consommais de trop. Et est-ce que finalement, ces addictions aux écrans qui se développent actuellement, elles ne nous rappellent pas qu'il y a quand même une limite et qu'il faut se trouver une limite par rapport à cette consommation, tout simplement. Hein. On nous incite de plus en plus à consommer, mais quelque part, les formes d'addiction qu'on voit émerger, sans doute, font un peu limite avec cette société consumériste. Alors, j'en viens à vous proposer la définition de l'addiction. L'addiction, nous dit Goodman, qui est un psychiatre, c'est un processus dans lequel est réalisé un comportement qui peut avoir pour fonction de procurer du plaisir et ou de soulager un malaise intérieur et qui se caractérise par l'échec répété de son contrôle et sa persistance en dépit des conséquences négatives. La définition est un petit peu longue, mais on doit retenir en gros quatre éléments. Le premier de ces éléments, c'est que si on adopte ce comportement, c'est pour le plaisir. Hein, c'est que ça procure du plaisir. S'il n'y a pas cette notion de plaisir, il y a sans doute qu'il n'y aura pas d'addiction. Le second élément, c'est l'échec répété de son contrôle. Il y a addiction quand il y a perte de contrôle. Ça veut dire que la personne elle-même essaye de se fixer des limites. Essaye de se dire « Non, aujourd'hui, je ne vais pas me rendre sur mon écran dedans. Je n'irai pas voir mes mails 53 fois par jour. » Elle essaie de se poser des limites et elle ne parvient pas, elle est dans l'incapacité de se contrôler et de respecter ces limites qu'elle s'est posées elle-même. Cet élément-là, de la définition de Goodman, elle est primordiale pour distinguer ce qui est de l'ordre de l'addiction de ce qui est de l'ordre de l'abus ou d'une situation d'excès. Sa persistance en dépit des conséquences négatives. Les conséquences négatives, c'est le troisième élément, c'est-à-dire que la personne va répéter le comportement pour toujours recevoir du plaisir, puis petit à petit pour juste soulager le malaise intérieur. Et il va y avoir une persistance de ces conséquences négatives. Enfin, il va y avoir apparition de conséquences négatives au fur et à mesure de la répétition du comportement. Et même donc en dépit de ces conséquences négatives, la personne ne va pas réussir à arrêter ce comportement. Quatrième élément dans cette définition, c'est la notion de processus. Un processus, ça veut dire que les choses se mettent en place au fur et à mesure. Ça veut dire que les choses ne se font pas du jour au lendemain. On ne devient pas addict du jour au lendemain. Il faut du temps, il faut passer par certaines étapes. Et ce qui dit processus dit aussi que, bien sûr, on peut faire machine arrière à chacune de ces étapes aussi. Il y a aussi cet aspect-là. Alors, les formes de cyberaddiction, pour l'instant, en tous les cas, d'usage plutôt addictif à l'aide du dispositif Internet que nous, on a pu recevoir dans nos consultations, sont de différents types. Donc, les jeux de hasard et d'argent ont connu avec Internet un nouvel accès et ont renouvelé un peu cette pratique de jeu. Il y a eu plusieurs étapes parce qu'il faut savoir que jusqu'à assez récemment, 2010 exactement, à la veille de la Coupe du Monde, les jeux de hasard et d'argent en ligne étaient interdits en France. Ce qui était une interdiction qui ne tenait pas la route puisqu'avec Internet, vous savez que les frontières n'existent plus. On peut recevoir des contenus du monde entier et personne ne peut filtrer. Voilà. Donc il existait à l'époque, il faut savoir, en 1995 ou 2000, je crois, il y avait 25 000 sites qui concernaient les paris sportifs ou les paris en ligne en général, donc les jeux de hasard et d'argent. Ça veut dire que c'était énorme. Quantitativement aussi, ce qu'on trouvait beaucoup comme type de site à l'époque sur Internet, c'était les sites pornographiques. C'est donc le sexe et le fric. Voilà. Même la planète Internet tourne avec les mêmes moteurs, finalement. En tous les cas, on a vu se développer aussi des publics, enfin, sont venus nous rencontrer aussi des publics spécifiques liés à des jeux de hasard et d'argent sur Internet. Aujourd'hui, il y a une offre légale qui ne jugule pas finalement les joueurs problématiques, les joueurs pathologiques, hein, ceux pour qui le jeu d'argent est devenu un véritable enfer. Les sites pornographiques, alors ça, c'était un peu une nouveauté, en même temps, c'est pas tant une nouveauté, mais... Donc, quand on a ouvert la porte aux joueurs de jeux vidéo à Marmottan, quelques temps plus tard, sont venus nous rencontrer des personnes qui nous disaient ben « Moi, je me reconnais dans cette histoire d'addiction à l'écran, le dispositif Internet, etc. Il est très présent pour moi. Je me reconnais dans l'addiction. Je vois bien comment mon comportement a évolué au fur et à mesure du temps. Mais moi, ça concerne les sites pornographiques. » Alors, jusqu'à là, on n'avait pas entendu ces situations-là. Et la majorité des patients qui sont venus nous voir à ce sujet disaient qu'ils avaient déjà cette activité masturbatoire avant l'existence d'Internet, souvent depuis quasiment l'enfance, l'adolescence. Sauf que c'était limité par le support. C'est-à-dire qu'à l'époque, il fallait se déplacer à la, à la vidéothèque ou au loueur de cassettes vidéo du coin, aller d'ailleurs dans cette pièce spécifique où étaient rangés les films X. Bon, c'était toute une démarche qui finalement limitait le nombre de supports et limitait le comportement de ces personnes. Ce qui s'est passé avec l'arrivée d'Internet, c'est cette possibilité pour eux d'avoir accès à des images pornographiques quasiment une possibilité illimitée. Et de ce fait, ce que nous expliquent aussi ces patients-là, c'est qu'avec Internet, eh ben, ils se sont mis à ne plus réussir à arrêter ce comportement masturbatoire qui a commencé à prendre beaucoup d'ampleur dans leur existence. C'est souvent plusieurs heures par jour, en fait. Voilà. Pour cette problématique des sites pornographiques, la consultation, les demandes ne cessent d'augmenter. Hein. Depuis environ 10 ans maintenant, chaque année, on constate qu'il y a une augmentation du nombre de demandes. Les achats compulsifs aussi, ils ont trouvé une certaine forme de renouvellement avec Internet. Il y a des personnes qui passent des heures et des heures à surveiller les enchères, à essayer de faire la meilleure affaire. Et puis finalement, ils y ont passé énormément de temps sans... ils reçoivent souvent l'objet qu'ils ont souhaité, puis qu'ils le mettent de côté, ils n'ouvrent jamais le paquet. Mais voilà. Je m'y connais moins en achat compulsif parce qu'à Marmottan, on s'est concentré sur les joueurs, beaucoup plus sur les joueurs, donc à la fois les joueurs de jeux de hasard et d'argent et à la fois les joueurs de jeux vidéo. Et c'est une de mes collègues qui s'occupe plus des personnes accro aux sites pornographiques. Et on vient d'ouvrir d'ailleurs un réseau spécifique pour les personnes, les soignants de ces accros aux sites pornographiques, un réseau de réflexion. Tellement ça nous paraît assez nouveau. On a aussi un réseau aussi pour les joueurs de jeux vidéo un peu similaire, de réflexion entre soignants. Alors, moi j'avais un peu, c'est vrai, orienté ma conférence sur cette question du jeu vidéo. J'espère que de ce cas particulier, on arrivera à échanger et que ça nous ça viendra interroger d'autres choses. Donc j'étais plus partie sur cette notion de jeux vidéo et addiction parce qu'on en a beaucoup entendu parler. Il y a eu des années où on ne parlait que de ça, de l'addiction aux jeux vidéo. C'était la nouvelle problématique gravissime qui menaçait nos adolescents, enfin surtout des garçons d'ailleurs, hein, systématiquement décrits comme ça, des jeunes hommes qui passaient leur nuit sur Internet. Donc là, on est quasiment 15 ans après les premières demandes à propos d'une éventuelle addiction aux jeux vidéo. Et c'est l'occasion de faire un petit peu un bilan avec vous. Où est-ce qu'on en est? Je laisse mon point d'interrogation sur jeux vidéo et addiction parce qu'on n'a pas de consensus scientifique actuellement pour dire l'addiction aux jeux vidéo existe. Cependant, je vous donne mon point de vue, moi, de clinicienne. Je reçois exclusivement des adultes. Hein, le centre Marmottan est un centre pour adultes. Mais je reçois, moi, des adultes qui sont vraiment en très grande difficulté par rapport à l'usage des jeux vidéo. Sans doute, plus exactement, ils sont en très grande difficulté par rapport à leur existence, hein, finalement. Et ça se manifeste au travers de cet usage problématique des jeux vidéo. Et pour certains, je pense qu'ils sont aux prises avec un processus addictif. Donc pour moi, l'addiction aux jeux vidéo, ça peut exister. Mais ça reste des phénomènes extrêmement minoritaires par rapport au nombre de joueurs, par exemple, et par rapport aussi aux autres formes d'addiction qu'on peut connaître. Par exemple, on reçoit beaucoup plus des accros aux sites pornographiques que des joueurs de jeux vidéo actuellement. Alors, il y a et il continue d'y avoir une multiplicité de discours à propos des jeux vidéo. Ça ne va pas être la même si vous vous adressez à un parent ou à un éditeur de logiciels ludiques. Les éditeurs de logiciels ludiques, eux, ils sont dans cette dynamique, on va dire, entrepreneuriale, de vous vendre des jeux vidéo. Et il ne faut pas s'y tromper, ils y mettent les ingrédients qui vont faire que vous ayez envie de rester dans ces jeux vidéo. Voilà. Les parents, eux, par contre, le discours souvent qu'on va entendre, il est souvent très inquiet, beaucoup d'incompréhension, un sentiment d'être débordé par ce qui se passe à la maison, souvent, et puis d'être très désemparé par rapport à ces situations d'excès. Mais comment on fait pour mettre des limites? Mais pourquoi ça ne tient pas, etc. Les médias, à un moment donné, eux aussi ont eu un discours à propos de ces jeux vidéo. Alors, c'était assez rigolo de voir comment la télé pouvait critiquer les jeux vidéo, sans doute parce que, entre-temps, ils perdaient un peu d'audimat. Voilà. Les politiques, hein, il y a eu un homme politique de l'Est de la France qui a proposé un amendement pour faire noter sur les jeux vidéo jeux addictifs. Ça n'a pas été retenu hein, comme amendement, mais voilà. Et puis les joueurs, bien sûr, hein, le discours des joueurs, souvent qui se fait beaucoup moins entendre, mais les joueurs qui expriment souvent beaucoup de plaisir dans leur jeu, qui ne comprennent pas pourquoi ça n'est pas autant reconnu, et parfois qui expriment de la souffrance quand ils en sont arrivés à s'isoler totalement de leur entourage pour se consacrer uniquement au jeu. Ce qui nous fait être prudents avec ces notions d'addiction et de jeux vidéo, c'est l'âge, d'abord, des personnes que l'on rencontre dans ces consultations. L'âge des personnes qui nous demandent de l'aide à propos d'une éventuelle addiction aux jeux vidéo. Alors, je disais, Marmottan, c'est un centre pour adultes. Donc, forcément, ça commence à 18 ans. Mais j'ai des collègues qui travaillent dans des centres où ils reçoivent des adolescents. Et ils reçoivent des adolescents à partir de 11-12 ans, qui présentent comme ça un usage très excessif des jeux vidéo, des écrans. En général. Mais c'est vrai qu'on sait bien que l'âge, l'adolescence, hein, cette période dans laquelle sont la majorité des demandeurs, est une période d'investissement très important dans une activité pendant un certain temps, et puis hop, on change d'activité quelques temps plus tard. Donc c'est une période de grand remaniement qui fait que ça ne cristallise pas non plus la personnalité, et c'est difficile de se dire, ben voilà, il a 15 ans et il est addict. Voire c'est contre-productif. Hein. On sait dans nos consultations que ça serait leur fournir une identité que eux-mêmes pourraient, ces jeunes gens, prendre avec eux, prendre pour eux, et ne plus bouger de cette identité. Le manque de recul, bon, on commence à en avoir un petit peu, mais 15 ans, c'est pas énorme par rapport à tous les changements qu'engendre cette révolution cybernétique. Et puis le fossé générationnel qui a toujours un peu tendance à nous faire avoir, à nous, adultes, un regard un peu, de défiance par rapport à ces nouveaux objets, beaucoup plus que les plus jeunes qui, eux, sont nés avec ces objets-là et qui sont beaucoup plus à l'aise. Et voilà. Bon, bien sûr, ce fossé générationnel, il tend à s'amenuiser au fur et à mesure des années, au fur et à mesure que des joueurs deviennent parents et ont un autre discours à propos de ces jeux pour leurs propres enfants. Alors, les jeux vidéo dont je vais vous parler, plus exactement, ils sont à la croisée de trois mondes. Internet, on en a déjà parlé. Le jeu et ses caractéristiques propres, hein, le jeu, c'est une activité qui doit procurer du plaisir, qui est séparée du reste de l'existence, qui est fictive, c'est une activité qui a lieu dans un temps précis, et dont on a conscience soi-même, quand on est dans le jeu, qu'on est en train de jouer. Hein. Et c'est quelque chose qui s'acquiert très tôt parce que, vous voyez, dans les cours de récréation, les enfants qui font pouce... Enfin, moi, à mon époque, je faisais ça. Je faisais pouce quand je voulais sortir du jeu pour dire « Je sais que je suis dans le jeu et que je suis aux prises avec des règles très précises qui sont liées au jeu et que si je veux sortir du jeu, je le signale à mes camarades pour pouvoir aller faire autre chose. » Donc, on a très tôt cette conscience de switcher d'un monde à l'autre quand on est dans la vie ordinaire ou dans le jeu. Le jeu, c'est un espace séparé de la vie ordinaire. Et c'est très important pour nous, et c'est aussi l'intérêt du jeu, c'est justement de pouvoir se séparer de cette vie ordinaire. Et puis les images, dont on a déjà parlé. Et ça nous donne le monde des jeux en réseau, que vous connaissez tous par cœur, bien sûr. Donc là, je reprenais cette idée. Je vais vous présenter donc un tout petit peu un aperçu de ce monde des jeux. Alors ici, j'ai répertorié uniquement les catégories de jeux en ligne dont j'ai eu connaissance, moi, par des joueurs de jeux vidéo. Parce que sinon, je ne les connaîtrais pas aussi bien, je dois dire. Donc c'est un peu un aperçu. Il faut savoir qu'il existe sur Internet, hein, une fois de plus sur cet écran d'Internet, il existe des sites qui sont très bien faits pour vous expliquer un peu ce que sont les différents jeux, avec des fiches explicatives, des informations type pédagogie, qu'est-ce qu'on a, e-enfance, etc. Vous pouvez là trouver, c'est vraiment des sources d'informations sur les jeux auxquels participent vos enfants. Alors, les principales catégories de jeux en ligne, on a relevé les RTS. Alors, ça, c'est les jeux de stratégie en temps réel. Je vous montre juste une image pour vous rendre compte de comment ça se passe. Donc là, très généralement, dans les jeux de stratégie en temps réel, on est dans une vision en deux dimensions et on est situé, nous, en tant que joueurs, en quelque sorte, au-dessus d'une carte, au-dessus d'un monde, hein, qu'on a l'air de... Voilà, on a une position un peu comme ça... un peu divine, hein, au-dessus, on survole le monde. Alors, dans les jeux de stratégie en temps réel, on a... Alors, ici, vous avez... Je reprends le micro. Hein. Alors, ici, vous avez la carte sur laquelle je vais évoluer. Et ici, en surbrillance, ce sont mes forces, ce sont mes... ce que j'ai pu développer déjà, et ce qui apparaît même en surbrillance, c'est les territoires que j'ai explorés. Tout ce qui est obscur, c'est ce que je n'ai pas encore exploré. Et dans cette partie obscure se cache mon adversaire, et qu'il faut que j'aille massacrer, parce que c'est quand même là-dessus sur lequel se fonde la majorité des jeux. Mais pas que des jeux vidéo, hein, des jeux en général. Voilà. Alors, le tout petit carré, je ne sais pas si vous le voyez en surbrillance. Ah, presque. Ce tout petit carré, bah c'est en fait, là, j'ai l'agrandissement de cette image-là. Voilà. Et puis, donc, en fait, qu'est-ce que c'est l'objectif dans ces jeux ? L'objectif de ces jeux, c'est que je coordonne au mieux mes forces pour pouvoir aller attaquer mon adversaire et gagner. Donc, ça ressemble beaucoup au jeu d'échecs, hein, en quelque sorte, puisqu'on a des pièces au jeu d'échecs qui ont des valeurs et des fonctions différentes, et c'est bien coordonner ces différentes fonctions qui me permet d'aller massacrer le roi d'en face. Donc là, ça fonctionne un peu de la même manière. Pour ce genre de jeu, il y a eu assez peu de situations d'addiction ou de dépendance, en tous les cas. Ne serait-ce que, on va le voir un petit peu plus tard, ce genre de jeu a été quand même un des genres majeurs du monde PC et qu'il y a énormément de gens qui se sont adonnés à ce type de jeu et qui sont même à l'origine d'autres types de jeux. Enfin voilà, on va y venir. Les FPS, First Person Shooter. Alors ça, c'est le jeu préféré des parents. Je vais vous montrer tout de suite pourquoi. Les parents adorent ce type de jeu. Les FPS, c'est par exemple celui-ci, qui est assez intéressant. Alors là, c'est pas le jeu en lui-même, c'est une vidéo qui a été réalisée par un groupe d'adolescents, dont le nom de leur groupe est affiché là, enfin, il va se réafficher. Voilà, donc on voit bien que c'est des adolescents, hein, d'emblée. Et alors, il s'agit d'une vidéo qu'ils ont fait eux-mêmes. Donc, ça veut dire développer quand même pas mal de capacités, hein, pour parvenir à cet objet-là, pour en fait informer les autres équipes de ce jeu que eux, ils sont sacrément forts. Donc là, ils se présentent, hein, les uns après les autres, et ils ont une mine sacrément patibulaire quand ils sont sous le masque de l'avatar, mais visiblement, ils ont bien compris que c'était un jeu. Ouais, c'est un peu rassurant parce que derrière, on retrouve des adolescents rigolards qui se prêtent au jeu. Alors, ces jeux-là, ils sont cette fois-ci non pas, on n'est pas en deux dimensions en train de regarder du haut du ciel plutôt le monde. Là, on est dans ce qu'on appelle une vision subjective. Donc on est en trois dimensions, vision subjective, avec le sentiment comme ça que le bras du joueur est prolongé à l'intérieur de l'écran par l'arme qu'il porte. Donc là, on est plus... Alors ça, c'est ça que les parents adorent, hein. C'est toutes ces scènes de, à la fois de sang, de bataille, de violence, etc. Là, on est plus dans un jeu de réflexe qu'un jeu de réflexion. Hein, autant tout à l'heure, il y avait de la stratégie, autant là, il s'agit plus d'être extrêmement concentré pour pouvoir être le plus rapide possible à tirer sur son adversaire. Hein, dès qu'il y en a un qui passe dans le viseur, paf, il faut être suffisamment rapide pour pouvoir en massacrer un maximum. Mais cette vidéo, moi, je l'aime bien parce que je me dis que quand même, ces ados, ils ont été très, très créatifs par rapport à l'objet d'Internet, par rapport à ce qu'ils ont réussi à faire en termes de capture d'image, de mettre un peu de musique dessus, de s'exposer de cette manière, à la fois de jouer ce rôle du masque, et finalement, on retrouve là bien des adolescents. Alors, ce type de jeu, on a pu voir quelques personnes pouvant avoir un comportement excessif avec ce genre de jeu, les FPS, parce que ce type de jeu peut développer un genre de dépendance, une dépendance au vide, une dépendance à l'anesthésie. Finalement, il fonctionne de manière tout à fait similaire à d'autres jeux qu'on connaissait avant, que sont les flippers. C'est-à-dire que dans le flipper, on est extrêmement concentré, voire on est même tellement concentré qu'on oublie qu'il y a du bruit autour, puisque souvent c'était des jeux qui étaient installés dans les cafés, on n'entendait même plus tout le bruit qu'il y avait autour. Et on en devient tellement concentré qu'on oublie tout le reste. Et c'est peut-être ce qui est recherché avec ce genre de jeu. On ajoute quand même dans les FPS le côté un peu défouloir aussi, cathartique, parce que ça fait quand même du bien comme ça, de pouvoir massacrer allègrement tous ces personnages virtuels, parce que je vois les parents déjà. Ah mince. Non, il n'y a que pour nous adultes qu'on tue des gens dans ce jeu. Pour la très grande majorité des enfants et des adolescents qui utilisent ce type de jeu, eux, ils vont vous dire non, mais c'est des pixels. Tu vois, je ne tue personne, personne ne meurt, c'est un jeu et ce sont des pixels. Même si l'image, oui, je suis d'accord avec vous, d'autant plus que moi, c'est des vieilles images que j'ai, ça date d'il y a 10-12 ans. L'image, elle est frappante et elle est extrêmement violente. Et c'est pour ça aussi que ça nous heurte, nous, en tant qu'adultes. Donc, parfois, on voit des usages excessifs de ce genre de jeu pour ces deux caractéristiques, c'est-à-dire la caractéristique défouloir et la caractéristique j'oublie tout le reste. Et alors, ce type de jeu, fortement déconseillé aux moins de 16 ans, eh ben, vous savez qui c'est qui les adore ? C'est les 12-16 ans. Eh bien oui. C'est-à-dire que ceux qui utilisent beaucoup ce type de jeu, c'est des préadolescents qui sont très aux prises avec toute la métamorphose pubertaire, donc pour lesquels il y a des changements extrêmement importants à l'intérieur du corps et qui font qu'il y a une tension en interne très importante qu'il faut décharger. Absolument déchargé. Alors, pourquoi pas dans ces jeux-là ? En tous les cas, visiblement, s'ils aiment autant ces jeux-là, c'est que ça leur apporte quelque chose et ça leur permet sans doute de décharger d'un certain nombre de tensions qu'il y a en interne. Bon, même si ces jeux, ce type-là, les FPS, ça peut créer ce type de dépendance un peu au vide, là encore, je n'ai pas reçu de joueurs excessifs, pathologiques, addictifs pour ce genre de jeu. Le type de jeu pour lequel je reçois surtout des joueurs, ce sont les MMORPG, MIAM, donc cet acronyme qui signifie Massively Multiplayer Online Role Playing Game, autrement dit, ce sont des jeux de rôle massivement multijoueur en ligne. C'est-à-dire que ça se joue sur Internet et que lorsque je me rends sur ce type de jeu, je vais jouer avec des dizaines, voire des centaines d'autres joueurs. Ce qui rend évidemment la partie d'autant plus excitante et d'autant plus compliquée aussi. Le plus célèbre de ces jeux, c'est, vous le connaissez sans doute, c'est World of Warcraft. Là, ce n'est pas World of Warcraft, là, ça c'est DAOC, Dark Age of Camelot, qui est un autre MMORPG qui a eu aussi son heure de gloire. Je ne sais pas s'il continue à fonctionner. World of Warcraft, ça vous dit quelque chose ? Oui. Donc, comment ça fonctionne dans ce type de jeu ? Je vais d'abord en parler. Il me semble que dans ces jeux-là, donc dans les jeux de rôle, il s'agit de performer. Alors, en tous les cas, chez les joueurs excessifs, pathologiques, ce qu'on retrouve, c'est cette volonté d'être performant dans le jeu. Et il me semble que dans les MMORPG, donc dans les jeux de rôle, les joueurs essayent de performer sur eux-mêmes. C'est-à-dire que dans ces jeux-là, on vous propose de développer un personnage, un avatar, un personnage qui va avoir un certain nombre de capacités et vous allez le développer au fur et à mesure de missions différentes qui vont vous être proposées. Or, il me semble que ceux qui sont devenus très accros voulaient vraiment développer au mieux ces personnages beaucoup plus qu'eux, ils investissaient plus le personnage qu'eux-mêmes. C'est quasiment ce qui s'est passé. Le deuxième élément qui rend ces jeux-là particulièrement accrocheurs, ce sont les caractéristiques même des mondes dans lesquels évoluent les personnages du joueur. Alors, peut-être le savez-vous, mais un jeu comme World of Warcraft, il est infini. Il est sorti en France en février 2005, donc ça fait plus de 10 ans en fait qu'il existe, et ça veut dire que certains joueurs y sont depuis le début, quasiment depuis le début, et l'histoire n'est pas terminée. C'est pas comme nombre de jeux vidéo qui ont une fin. Celui-ci, il est sans fin. Il est sans fin, et la manière dont il fonctionne, c'est de toujours vous proposer des missions ou des quêtes à exécuter. Ce qui fait que, et que c'est plus encore, ces missions et ces quêtes sont enchevêtrées. Ce qui fait que vous commencez une mission, vous ne la terminez pas, vous en avez une deuxième qui commence, voire une troisième qui commence, puis vous retournez à la première mission, puis à la deuxième. Ce qui fait que le message des parents, qui peut être, une fois que tu as terminé ta partie, tu viens, tu passes à table, mais là, ça prend plus sens. Oui, forcément, parce que j'ai toujours un truc à faire et la partie ne se termine jamais. C'est un peu particulier. Autre caractéristique, ils sont permanents, donc accessibles 24 heures sur 24. Là, une fois de plus, si on a des problèmes de sommeil et qu'on se dit « qu'est-ce que je fais là au milieu de la nuit ?» Hop, tiens, ça c'est possible, je peux aller me connecter, évidemment. Et surtout, ils ont une caractéristique qui intéresse beaucoup nos adolescents, c'est qu'ils sont certains. C'est-à-dire que, comme m'avait dit une fois un joueur, c'est garanti. Si je m'investis de cette manière dans le jeu, j'aurai, et c'est garanti, telle ou telle récompense. Je le sais, c'est comme ça, c'est programmé, c'est certain. Et cette certitude, elle est rassurante. Elle est bien plus rassurante que ce monde réel dans lequel on leur dit « Ah, mais il y a une certaine imprévisibilité dans la relation humaine ». Et d'ailleurs, ils l'ont déjà vécu en cours. Ils ont pu constater que même s'ils mettent tout, ils fournissent tous les efforts, si la prof ne les aime pas, ils n'auront pas la meilleure note. C'est vrai. C'est l'imprévisibilité des relations humaines. Donc, ce que recherchent les joueurs aussi qui s'investissent beaucoup, c'est aussi ce caractère de certitude. Donc, d'être dans une bulle comme ça, rassurante, douce, avec un petit peu d'épreuves quand même à réaliser, mais pas trop non plus. On réussit dans ces jeux où on ne meurt pas. Enfin, si le personnage peut mourir, mais il sera ressuscité. Donc vraiment pas de risque, pas de prise de risque. Ou une prise de risque dans le virtuel, autrement dit, pas vraiment de prise de risque. Enfin, le dernier élément qui est particulièrement accrocheur avec ce genre de jeu, c'est la communauté de joueurs. C'est-à-dire que on vous incite dans ce type de jeu, à vous regrouper dans des guildes, par exemple, mais dans des clans, dans des regroupements de joueurs, tout simplement. Et on vous incite donc à jouer ensemble. Il y a des missions qu'on ne peut pas réaliser seul, parce que le boss, le monstre qui a à massacrer, il est beaucoup trop fort et il faut absolument être au moins 10 pour le tuer. Eh bien, ça veut dire qu'il faut s'associer entre joueurs. Ça veut dire aussi que, par exemple, on a prévu d'aller tuer ce monstre vendredi soir, 20h30. Donc, on se donne ce rendez-vous. Et là, paf, mes parents me rappellent le dîner chez Tante Misel. Ah, ben, j'ai pas trop envie d'y aller. Hein. Alors, un adolescent qui serait loyal envers ses parents, c'est presque suspect. Les adolescents, ils vont quand même avoir tendance à choisir leur bande de potes, et c'est peut-être même quelque chose d'un peu rassurant, finalement. Mais forcément, ça crée quand même un conflit de loyauté. Hein. C'est pas si simple que ça, que de résister à ses parents et de dire « Non, j'irai pas au dîner de la tante Misel, parce que moi, je me suis engagée sur Internet à être présent. » C'est un peu compliqué à expliquer, et souvent, ça termine plus en conflit, tout simplement, entre parents et adolescents, et en tension très importante. Avec des parents qui disent « il préfère son écran ». Non, ce n'est pas l'écran qu'il préfère. C'est les personnes qu'il va rejoindre pour pouvoir jouer, pour pouvoir échanger. Pour... Voilà. Donc, la communauté de joueurs va aussi comme ça créer une sorte de pression en fait, sur l'individu. Et donc, j'ai ce rendez-vous, il faut que je m'y rende. Ça va faire partie des éléments qui vont accrocher les joueurs. Alors, pour essayer de tenir le temps, je vais un petit peu vite. Donc, pendant longtemps, jusqu'à il y a quelques années, on va dire, 2-3 ans en arrière, essentiellement, quand on recevait des joueurs de jeux vidéo addictifs, c'était pour des MMORPG. Et depuis quelques temps, il y a une nouvelle catégorie de jeux qui a émergé et qui a l'air de faire vachement plaisir aux pas mal d'adolescents, ce sont les MOBA. Alors, les MOBA, ça veut dire Massively Online Battle Arena. Autrement dit, ce sont des jeux d'affrontement dans des arènes. Le jeu le plus connu, c'est League of Legends. LOL, ça vous dit quelque chose? Oui? Oui. Merci. Alors, dans ces jeux-là, c'est un peu des jeux de stratégie. On a la même forme, cette idée du jeu de stratégie, c'est-à-dire on est sur une carte, on a généralement des partenaires de jeu. Donc là, on a aussi l'effet d'être dans une communauté ou dans un groupe de joueurs, en tous les cas, dans une équipe. Donc on est 3 ou 5. On est sur une carte, et là aussi, il faut aller massacrer le collègue d'en face qui, lui, occupe l'autre partie du territoire sur cette carte. Donc on a ces aspects de jeu de stratégie, et puis on a aussi un peu de jeu de rôle parce que chacun dans l'équipe occupe des postes différents, de styles différents, et on va pas avoir exactement la même fonction. Donc cette fois-ci, c'est pas des jeux infinis au niveau du temps, hein, c'est des parties qui sont limitées dans le temps, généralement qui durent 30-40 minutes et qui s'achèvent au moment où il y a un vainqueur, forcément. Et ces jeux-là, ils induisent pas mal, eux aussi, enfin, ils ont un certain potentiel addictif. Cette fois-ci, il ne s'agit plus de performer sur soi-même. Je trouve que souvent, on a des joueurs qui sont toujours dans une recherche de performance, mais sur les autres. C'est-à-dire, il faut dépasser les autres. Dans ces jeux-là, la compétition entre joueurs, elle est extrêmement importante. Entre équipes, entre joueurs. Hein, quand on a une bonne équipe, on veut rester au top. Donc, on va sans doute inciter ses petits camarades de jeu à jouer plus souvent pour être meilleur. Parce qu'évidemment, si on joue souvent ensemble, on sera meilleur pour se coordonner et on sera meilleur pour battre les autres. Évidemment, il y a des classements, hein, des classements mondiaux pour ce genre de jeu. Si vous voulez rester dans le haut du tableau, bah, va falloir y aller tous les jours. Hein, parce qu'il y a quand même du monde qui participe. Et puis, les caractéristiques du jeu même, hein, c'est-à-dire qu'il y a cette dynamique du perdu-gagné. Et ça, c'est ce que les joueurs racontent, c'est que bah, perdu-gagné, si on a perdu, on a envie d'en refaire une. Il y en a toujours un dans le groupe qui a envie de refaire une partie pour regagner. Et puis, quand on a gagné, c'est que là, on est sur un bon moment, donc il faut continuer à jouer pour regagner. C'est comme ça que, enfin, en tous les cas, les joueurs me racontent qu'ils pensaient passer... en faire une ou deux parties ce soir-là. Et puis, finalement, ils ont terminé à 3-4 heures du matin parce qu'ils étaient pris dans cette dynamique du perdu-gagné. Alors, on en arrive à la fin de la présentation, mais pas de notre échange, j'espère. Prévenir, intervenir, éduquer, puisque ce soir, là, c'est vraiment la conférence plus vers les parents. Je crois qu'on a beaucoup à se mobiliser, nous, en tant qu'adultes, parce qu'on reste les régulateurs principaux des enfants, des plus jeunes, avec toutes ces nouvelles technologies, avec le monde en général. Donc, prévenir, intervenir, éduquer, qui ? Tout le monde, et à commencer par les parents, parce que je rappelle cette place très importante. Qu'il existe des outils, alors les contrôles parentaux, j'entends déjà ceux qui vont me dire oui, mais le contrôle parental, il l'a déjoué, hein, il est beaucoup plus doué que moi, ça a été très très vite. Et alors, les joueurs, il y a certains joueurs qui m'ont raconté comment est-ce qu'ils faisaient pour déjouer les contrôles parentaux, c'est drôle, hein. Je prends la webcam, je la mets derrière quand maman fait le code, c'est filmé, je récupère le film, j'ai le code. Ah bah ouais, fallait y penser, hein, effectivement, tout simplement. Mais c'est vrai qu'ils sont, ils sont plus habiles que nous, donc ils vont les déjouer, ces contrôles parentaux, mais c'est quand même intéressant d'essayer de les mettre en place, parce que si on ne pose pas de limites, il n'y a pas de transgression. Et s'il n'y a pas de transgression, il n'y a pas de discussion. Donc, si le contrôle parental a été déjoué, que vous vous en rendez compte, vous pouvez au moins aller voir votre ado en disant « Voilà, j'ai bien compris que les limites que je t'avais fixées, bah, tu les exploses. Qu'est-ce qui se passe là ?» Et là, de recommencer peut-être à communiquer au sujet de cette activité si jamais la communication s'était un peu perdue. Donc l'intérêt des contrôles parentaux, même si ils vont les déjouer. Les sites d'information, j'en parlais tout à l'heure, Pédagogeux, e-enfance, s'informer sur... Après tout, tout à l'heure, à la précédente conférence, il y avait des parents qui disaient à quel point il y avait une pression des pères d'âge. Mais oui, tu vois bien, l'autre, il peut rester sur Internet jusqu'à pas d'heure, tu vois bien, il peut avoir ça, etc. Oui, certes, bon, alors il faut pouvoir s'informer, soit en tant que parent, pour dire pourquoi on fait ce choix-là. Ben non, chez nous, l'Internet, ça s'arrête à telle heure, et c'est comme ça. Pourquoi est-ce qu'on fait ce choix-là ? Aidez-vous de ces sites, de toutes les informations que vous pourrez trouver pour pouvoir affirmer votre position. La norme PEGI, alors peut-être que vous en avez déjà entendu parler, les icônes du PEGI. Alors le PEGI, c'est pan-européen, je ne sais plus exactement, mais en gros, c'est des icônes qui sont placées sur les jeux vidéo essentiellement pour vous indiquer à partir de quel âge le jeu est conseillé. Ils ne peuvent pas interdire, mais conseillé. Donc quand vous avez l'icône 3 ans, bah, c'est que c'est conseillé à partir de l'âge de 3 ans. Et quand vous avez l'icône 16 ans, c'est conseillé à partir de l'âge de 16 ans. Tout simplement. Ces icônes PEGI, elles donnent aussi d'autres informations. Elles vous disent si ce jeu peut se jouer en ligne. Et puis, elles peuvent donner d'autres informations sur le contenu du jeu. Est-ce qu'il y a de la violence ? Est-ce qu'il y a un langage grossier ? Est-ce qu'il y a des éléments qui peuvent faire peur, etc. Ce qui vous permet, à vous, en tant que parent, de pouvoir choisir un jeu vidéo en ayant un peu plus d'informations sur le contenu quand même de ce jeu vidéo. Parce que l'information, mais tout le monde là à l'école, ne vous dit pas ce qu'il y a à l'intérieur du jeu vidéo. Hop. Les groupes de parole pour parents, je crois que c'est aussi des lieux, la soirée aussi, cette conférence, j'espère que ce sont des lieux aussi où on peut échanger, interroger notre rapport à ces nouveaux écrans et aux écrans. Et puis, donc, mon regret, c'est que l'éducation à l'image ne soit pas encore effectuée et que je pense que c'est un manque. Et je vais m'arrêter là pour vous laisser la parole. Voilà.
Merci beaucoup. Impeccable pour le temps. Voilà, on a une demi-heure pour échanger. Alors l'éducation à l'image, sûrement. Alors il me semblait que jadis, on essayait de faire une éducation au texte. On essayait, hein, voilà. Donc, jadis, avant la guerre, il y a toujours une guerre, hein, on essayait de nous apprendre à lire un article de journal, à décoder un texte, qu'est-ce qu'il y a derrière, enfin, etc. Ensuite, il y a eu quand même aussi un peu une petite éducation des photos, hein, puisque une photo, hein, c'est aussi un cadrage. Hein, ça, c'est de... et quand on regarde là, on ne regarde pas là, et pourquoi, et comment. Donc, si certains disaient « moi, je ne crois que ce que je vois », il faudrait penser que c'est justement le contraire. Il faut se méfier de ce qu'on voit. Hein, alors, ça pourrait être un beau sujet philosophique. Voilà, vous avez 4 heures et je ramasse les copies. Mais donc, c'est sûrement très intéressant d'y réfléchir. Alors, avec ces images qui sont des images construites, et qui bouge et qui mime encore plus la réalité, c'est compliqué. Et il y a une interaction entre ce qu'on pourrait appeler la réalité intérieure, hein, qui est quand même le monde des fantasmes, et puis cette réalité extérieure, qui est une forme de réalité. Hein, oui, il faut, puisque ça existe, donc c'est une réalité. Et qu'en fait-on ? Voilà. Alors, je vais vous laisser la parole avec une interrogation que je prolonge, qui serait la suivante. Justement, pour vous, qu'est-ce qui peut faire peur dans ces réalités ? Est-ce qu'il y a des choses précises, des points précis ? Est-ce que finalement, et fort heureusement, on le voit bien, tous ceux qui utilisent un certain nombre de jeux ne deviennent pas... malade, entre guillemets, ou en tout cas désocialisé. Alors, est-ce que si on est un peu, à un moment donné, désocialisé, est-ce qu'on est malade ? Peut-être est-ce que ce qui est dangereux, c'est être dépendant d'un sujet, d'une technique, ou voilà, peut-être comme disait Marc Valeur, en se donnant plusieurs mètres, on évite de se soumettre à un tyran. Je trouvais que c'était tout à fait intéressant ce que disait Marc, et peut-être que c'est ça. Est-ce que si on a encore une certaine diversité, c'est peut-être un peu mieux, parce que probablement que dans la vie, on fonctionne avec des dépendances et avec, bien sûr, un attachement, voilà, qui est un vaste domaine, là aussi, dont on pourrait parler beaucoup. Alors voilà, plein de questions, mesdames et messieurs, vous avez la parole. Et puis ensuite, Elisabeth Rosset va vous répondre. Et nous, un petit peu aussi, avec Aline, si on a des trucs à dire. Qui est-ce qui passe le micro ? Alors, surtout, prenez le micro pour parler, puisque nous... Il y a un enregistrement, donc c'est important que vous puissiez bien parler dans le micro. Hein, merci beaucoup.
Bonjour. Je voulais savoir, est-ce que le jeu peut développer la haine envers les autres joueurs, chez l'adolescent ? C'est-à-dire, quand il va attaquer l'ennemi, est-ce qu'il va avoir une forme... il va détester l'ennemi, donc les autres, il va avoir une haine, développer une haine chez les autres.
Oui. Oui, sans doute, parce que quand on est pris dans le jeu, d'ailleurs, je ne sais plus quel philosophe disait ça, mais faites jouer quelqu'un pour connaître véritablement cette personne. Quand on est pris dans le jeu, on y est à fond, et celui qui est notre ennemi, alors c'est encore plus plaisant d'ailleurs dans le virtuel, parce qu'on peut s'autoriser à le détester, à vouloir le massacrer, parce qu'on sait que c'est du virtuel, parce qu'on sait que c'est réversible. Qu'on n'est pas dans la vraie vie où si jamais je plante un couteau sur mon voisin de droite, il risque de mourir quand même. Non, je ne le ferai pas. Mais il risque de mourir. Donc c'est d'autant plus plaisant et sans doute qu'on développe, enfin les joueurs développent une certaine rage plutôt que de haine, je dirais sans doute, à l'égard de leur ennemi à l'intérieur du jeu, le temps du jeu. Puisque sitôt qu'on est sorti du temps du jeu, l'adversaire n'est plus un adversaire. Il est le temps du jeu.
Alors, rappelez-vous ce qu'a dit un grand joueur de tennis. Moi, quand je rentre dans le cours, j'ai qu'une idée, c'est de tuer l'autre.
Mmh. Voilà. C'est ça.
Alors, et ensuite, vous avez bien vu quand même qu'à la fin, ils font une accolade, voilà, ils s'embrassent un peu. Là, voilà. Voilà. Bon, alors, si on arrive à avoir ce type de fonctionnement, probablement qu'on n'est pas dans quelque chose qui peut amener de la souffrance et un dysfonctionnement affectif. Voilà. Mais il faut en être bien conscient et savoir que c'est, entre guillemets, un jeu. C'est-à-dire, on fait comme si c'était. C'est pas vrai.
Alors, sans doute, peut-être votre question, elle est en lien avec certains massacres qui ont eu lieu. Je sais pas si c'est par rapport à ça.
Non. C'était vraiment pour savoir si, chez l'adolescent, il peut se renfermer. Et par exemple, dans son milieu scolaire, il pouvait détester les autres et se renfermer sur lui à cause des jeux. Par exemple, détester les autres.
Alors, il déteste, un peu ce qu'on disait, le joueur va détester les autres joueurs le temps du jeu. Mais ça ne va pas forcément développer chez lui une haine de son entourage direct ou de ses camarades de classe, etc. Il y a eu des amalgames comme ça qui ont été faits entre jeux vidéo et violence, notamment autour de massacres extrêmement malheureux, hein, le massacre de Columbine, où il y a ces deux adolescents qui sont entrés dans ce lycée et qui ont massacré avec des armes à feu un certain nombre de leurs petits camarades et professeurs. Directement, quand on a su qu'ils utilisaient, alors ils utilisaient des FPS, hein, le genre de jeu tellement aimé des parents, là, en vision subjective, etc. Et ce dont on s'est rendu compte, donc déjà dans un premier temps, les jeux vidéo ont été mis en accusation par les médias, hein, essentiellement, comme étant responsable de ce massacre, ces jeux vidéo qui auraient inspiré ces jeunes gens, etc. Et en fait, on s'est rendu compte ensuite qu'ils avaient un usage bien particulier de ces jeux vidéo et que sans doute qu'ils les ont plus utilisés comme une scène de théâtre leur permettant de répéter le crime auquel ils avaient pensé avant dans leur tête comme la source de l'idée d'aller massacrer ses petits camarades. Hein. Ça s'est passé dans l'autre sens. Mais il est vrai qu'il y a eu toute une période comme ça où cette violence de ces jeux, notamment les FPS, voilà, a fait qu'on a amalgamé un certain nombre de situations qui ont eu lieu dans la réalité physique et matérielle. Et on a trouvé ça confortable, peut-être aussi, d'accuser les jeux vidéo plutôt que les auteurs des crimes.
Alors, ça avait été un peu la même chose il y a 25 ou 30 ans. On a dit la télévision, hein, rend les jeunes violents. Voilà, ça, il y a eu tout un débat à l'époque. Bon, ce n'est pas vrai du tout. Hein. C'est sur certains jeunes, en effet, ça peut révéler des choses. Et ils vont prendre dans la télévision ou ailleurs des éléments qui font écho à eux-mêmes. Mais la problématique, elle est à l'intérieur d'eux-mêmes. Hein, le primum movens, c'est là.
Alors justement, sur le même sujet, en fait, vous parlez également des possibilités d'effouloir des jeux. Mmh. Moi, en tant que maman, je constate ponctuellement que ça peut plutôt amener des tensions à la fin du jeu, dans la communication, dans la rapidité de communication aussi, la réactivité. Mmh. Et j'ai l'impression que la vitesse des jeux, ce que ça suscite, ne fait pas qu'un défouloir.
Eh bien oui, malheureusement,
ce qui peut peut-être parfois le traduire, on peut croire de la violence. Moi, je ne parle pas de violence, mais je parle plutôt de tension. Mmh. Je sens vraiment cette tension post-jeu, en fait.
Alors, je pense que les jeux défouloirs comme ça, cathartiques, pour partie évacuer un certain nombre de tensions, qui sont plus des tensions en interne, mais qui, en même temps, ils induisent cette pratique de jeu, puisqu'on est dans un état très particulier quand on joue à ce genre de jeu. D'ailleurs, comment dire, les joueurs ne sont pas performants dans la première demi-heure. Hein, ils le deviennent au fur et à mesure. Parce qu'il faut se mettre dans un état de conscience bien particulier pour être extrêmement attentif, extrêmement rapide et concentré. Forcément, le temps d'atteindre cet état, ça prend un peu de temps. Et pour en redescendre aussi. Hein, donc, dans cette réactivité, comme vous dites, c'est très juste. Ils étaient aux prises avec un jeu où ça allait très vite, il fallait aller très vite. Et là, ils retournent dans la réalité physique et matérielle où les choses vont un peu plus lentement. Sauf qu'il faut se réapproprier ce rythme-là, en quelque sorte. Et switcher, c'est pas si simple que ça. C'est pour ça qu'il faut les encourager même à faire des pauses, surtout avant d'aller dormir, ce qui n'est pas simple. Alors, il faut commencer très tôt, la question.
Alors,
des pauses.
Sur le plan physiologique, par exemple, si vous faites du sport le soir, vous allez augmenter votre température corporelle et vous avez du mal à vous endormir pour la plupart des gens. Là, c'est toute proportion gardée par ailleurs. C'est un peu la même chose. Si vous voulez, là, il y a une sorte d'excitation psychique très importante et qu'on ne peut pas sortir de cette excitation psychique en un quart d'heure, 20 minutes. Il faut certainement plutôt une heure, deux heures, etc. Donc, c'est tout à fait, entre guillemets, normal que ça se passe comme ça, hein, puisque là, il y a une tension. Hein, ça peut être une tension physique, une tension psychique, les deux, etc. Hein, voilà. Hein, donc...
Juste, excusez-moi, une question de complémentaire. Est-ce qu'il existe une sorte de serious games qu'on voit apparaître, en fait, une sorte de thérapeutique avec les jeux? Est-ce qu'il y a des serious games comme ça qui existent pour apprendre aussi aux enfants à utiliser, à se méfier, également aux parents pour accompagner? Est-ce que vous connaissez des outils comme ça qui peuvent accompagner?
Alors, il existe un outil, il y en a plusieurs, hein, mais je vais en citer qu'un seul, qui est en train d'être développé, hein, qui est aussi un outil quasiment thérapeutique. Hein, c'est développé par un collègue de Bordeaux, hein, Xavier Pomereau, qui, avec son équipe, met en place en ce moment donc des jeux qui sont faits aussi avec les adolescents, hein, pour leur montrer des situations et les faire réfléchir. Alors, ils utilisent des avatars qu'ils vont constituer, ils vont reparler, enfin, etc. Donc, ils vont constituer les dialogues. Il y a tout un apprentissage et des identifications qui vont, cette fois-ci, permettre à ceux qui les utilisent de développer une expression et la parole, qui est en général plutôt bloquée. Voilà, donc ça peut être intéressant, si vous voulez. Comme toute chose par ailleurs, le système de ce type de jeu ou autre chose, c'est ni bon ni mauvais. C'est la façon dont tu l'utilises et la façon dont il est conçu. Et qu'est-ce qu'il va révéler en nous, hein? Alors, on parle beaucoup des enfants ou des adolescents, mais enfin, parlons de nous en général, être humain, hein, parce qu'il est possible aussi que nous utilisions d'une certaine manière aussi ces jeux. Hein, il n'y a pas que des adolescents. Hein, il y en a qui ont 25, 30, 40... qui utilisent ces jeux, d'une part, et puis, ou ce style de fonctionnement, si vous voulez. À partir du moment où on va utiliser un médium, hein, quel qu'il soit, eh bien, ça fait écho en nous, encore une fois. Hein, et ça ne fait pas le même effet chez vous, enfin, etc. Voilà. Donc, ça, il ne faut pas accuser, si vous voulez, l'instrument, il faut essayer de comprendre qu'est-ce que ça fait comme effet chez mon enfant, chez mon frère, chez mon père. Voilà. Hein, et pourquoi, lui, ça lui fait ça, l'autre, ça lui fait pas. Hein, alors, il y a des gens qui deviennent addicts à tel ou tel comportement, d'autres pas, à certains produits, d'autres pas. Enfin, bon, si on parle des produits, c'est la même chose. Donc, attention à une simplification dans la compréhension en accusant quelque chose d'externe, alors que la problématique, elle est plutôt interne ou entre les individus. Hein, donc, du groupe familial, enfin, ou du groupe social.
La cause première, je pense, je ne sais pas si ça serait de sortir d'une forme d'anxiété, c'est-à-dire qu'ils ont une anxiété qui est difficile à vivre. Quand on est pris dans un jeu ou d'autres addictions, on n'est plus du tout dans cette anxiété, on se sent plus fort, on va se permettre des choses qu'on ne ferait pas. Et puis, ils s'isolent de tout, ils ne mangent plus... d'une façon équilibrée en général, et automatiquement ils ont des problèmes de concentration et des problèmes d'épiderme. Donc on dit bien d'ailleurs mal dans sa tête et mal dans sa peau. Je pense que aussi j'ai souvent remarqué ils ont pas une très belle peau. Hein. Ils n'ont pas de peau d'être dans ces conditions puisqu'ils sont malheureux. Quand, effectivement, et ce que vous disiez aussi, il y a des conflits. Enfin, est-ce que c'est pas ça qu'il faut en premier combattre et ensuite aller plus loin, mais voilà. Et pour les parents, est-ce qu'il faut vraiment... Moi, j'ai vu des jeunes, ils sont venus me voir, et ils me disaient, ce qu'il faudrait, c'est qu'on arrête le jeu carrément. Mais c'est difficile pour eux, parce que... Alors, comment les aider à arrêter ce jeu? Moi, déjà, quand les jeunes venaient me voir, pour moi, c'est un succès. Déjà, qu'ils sortent de sa chambre, qu'ils viennent... C'est déjà énorme. Parce que c'est ça, la première chose qu'il faut qu'ils arrivent à faire. Alors, c'est là qu'il faut, je pense, réfléchir, mais... c'est pas toujours évident et chaque cas est un cas différent, quoi. Mmh.
Ouais. C'est sûr et certain que le jeu a une fonction psychique et souvent une fonction, enfin en tous les cas l'investissement comme ça démesuré d'un adolescent a une fonction au niveau de la famille. Alors la famille peut permettre de faire levier en quelque sorte pour que le jeune se mobilise par rapport à ce qui lui arrive. Parfois ça se passe de cette manière-là, souvent parce que les parents sont les premiers demandeurs aussi, hein, ils sont en alerte par rapport à cette situation. Et souvent, c'est vrai qu'on se rend compte qu'au niveau de l'entourage, au sein de la famille, il y a des tensions, on reprend ce mot, dans les relations, il y a de l'anxiété, comme vous soulignez, une certaine inquiétude, peut-être une surinquiétude de la part des parents par rapport à l'avenir, mais en même temps, c'est vrai que...
Alors, est-ce que ce problème avec les jeux est un problème premier ou est-ce que le fait de se livrer à ces jeux est simplement le résultat de quelque chose qui n'était pas forcément pathologique, mais peut-être dysfonctionnant ? Hein, il faut aussi, bien sûr, se poser cette question-là. Et alors ensuite, le fait de se polariser sur le jeu va, bien sûr, amplifier... Mais aussi, le risque, c'est de détourner les vraies causes en disant, ben, voilà, c'est à partir du moment où il y a ce comportement avec le jeu qu'il y a problème. Alors que les problèmes sont certainement plus larges et certainement existaient en amont. Mmh. Hein. Et ce n'est pas forcément très facile, hein, je veux dire, de pouvoir réfléchir plus globalement d'une manière générale, systémique, si vous voulez. Hein. Ça, c'est évident. Deuxième remarque, avec toute addiction, c'est le problème de est-ce qu'on arrête brutalement ou est-ce qu'on essaye de diminuer et d'avoir un comportement avec un produit ou un comportement un tout petit peu différent. Est-ce que c'est possible? Alors, moi je dis oui, dans certains cas, hein, par exemple avec certains produits, il est préférable, quand c'est possible pour certains, d'utiliser moins le produit, et c'est déjà une victoire, je veux dire. Et c'est quelquefois un peu plus facile que de supprimer comme ça du jour au lendemain le produit. Mmh. Bon, mais vous l'avez dit fort pertinemment, à chaque fois, si vous voulez, c'est quelle est cette personne qui est avec moi qui m'explique ça ? Est-ce que dans son parcours c'est possible pour lui ? C'est pas peut-être facile, mais c'est possible. Pour un autre, ça va pas être possible. Enfin voilà, je pense qu'on va pas vous donner, je dirais, une conduite à tenir. Pour tout le monde, hein, c'est à chaque fois hein, quelque chose qui sera adapté en fonction de son mode de fonctionnement. Et puis, dans son environnement, comment est-ce que ça fonctionne ? Je veux dire, voilà. Hein. Une question à droite, oui, monsieur ?
Il me semble que ce qui manque dans ces jeux, c'est ce qu'on va retrouver dans les jeux société, l'acceptation de règles qu'on doit mettre en commun et relativiser ou interpréter lorsqu'on est dans un jeu société, alors que dans ces jeux-là, finalement, les règles sont fixées de manière certaine par un programme informatique et qu'il n'y a aucun apprentissage à l'interprétation, la tolérance Vous prenez plusieurs familles qui jouent au même jeu et vous allez vous rendre compte que les règles sont différentes d'une famille à l'autre, alors qu'on a tous le même mode d'emploi. Est-ce qu'on n'a pas une difficulté ? Je vois mon fils qui, effectivement, qui a 8 ans, avec effectivement un jeu où il est tout seul, un jeu vidéo où il est tout seul, où il va effectivement maîtriser finalement l'ensemble des éléments, lorsqu'il se met à jouer avec nous. Qu'effectivement, on doit pouvoir composer parfois sur les règles et les interpréter, il ne supporte pas. Mon idée serait de dire que on ne peut pas avoir sur des jeux vidéo de ce type les mêmes apprentissages de la vie en société qu'on peut avoir sur d'autres jeux. Et la question, du coup, de l'intolérance à la frustration. Puisqu'au fond, ces jeux-là, on a l'impression que le jeune, pour parler du jeune, ne sera jamais défrustré, mais en même temps, il ne va jamais être confronté à l'échec, puisqu'il aura toujours la possibilité, finalement, de recommencer. Et moi, ça me paraît inquiétant.
Oui, c'est à la fois l'avantage de ces jeux et à la fois leur inconvénient. C'est-à-dire que d'un côté, cet avantage d'être face à un programme, c'est que oui, il est impartial, les règles sont claires, certaines, etc. Ça a ce caractère rassurant. Voire, c'est très efficace en termes d'apprentissage, au contraire. Mais parce que dans les jeux, et on le sait aujourd'hui, il y a une boucle d'apprentissage qui est que vous réalisez votre mission et vous êtes récompensé pour les efforts que vous avez fournis. Et on sait bien que quand la récompense arrive aussi vite derrière l'action, et ben ça renforce d'autant plus le comportement. Et ces jeux offrent cette possibilité-là. Autre possibilité qu'offrent les jeux, c'est que vous pouvez vous planter autant de fois que vous voulez, vous pouvez recommencer. Et ça, c'est quand même aussi quelque chose qui est très intéressant pour progresser. Les joueurs de jeux vidéo que je reçois, par exemple, ils m'expliquent. Souvent, ce sont des hauts potentiels intellectuels pour les deux tiers d'entre eux. Donc c'est quand même assez important pour le signaler. C'est des gens qui, au contraire, ont beaucoup de facultés et qui s'ennuient souvent en cours et qui l'ont trouvé avec ces programmes. Et c'est là où, sans doute, on bascule dans le côté obscur. Ils ont trouvé dans ces programmes quelque chose qui s'adapte à eux. D'habitude, on leur a toujours demandé de s'adapter aux autres. Et là, le programme s'adapte à leurs capacités. Et d'un côté, c'est merveilleux, effectivement, puisque pour eux, ça leur permet de se sentir mieux, de développer leur capacité, alors que jusque-là, ils se sentaient peut-être un peu frustrés. Et de l'autre côté, c'est là où c'est plus compliqué, c'est que la vie réelle, c'est pas ça, quoi. C'est pas le monde qui s'adapte à moi, c'est plutôt moi qui m'adapte au reste du monde. Donc, c'est un peu ce que vous pointez là, quand vous expliquez cette question de la relativité des règles et du vivre en société. Bon, donc il faut faire les deux. C'est-à-dire avoir cette possibilité d'avoir des programmes qui s'adaptent à soi et aussi être à certains moments être confronté à la règle de l'autre et avoir à faire comment est-ce qu'on peut faire avec la règle de l'autre. Et oui.
Oui, moi, c'est pas une question, c'est plutôt un témoignage. Mon fils, il a 13 ans et depuis l'âge de, on va dire, 8-9 ans, il est comme tous les autres, passionné et intéressé par les jeux vidéo, mais pas Internet. On n'a pas parlé des consoles. On parle toujours que les enfants exagèrent, mais il ne faut jamais oublier que c'est nous les parents qui achetons les consoles déjà. Bon, ça c'est une chose. Pourquoi ? Parce que c'est un phénomène de mode. Parce que, comme on m'a dit avec le téléphone portable, « Ah, à 9 ans, ton fils n'a pas encore un téléphone portable, mais comment tu fais ?» Bon, donc, tout le monde tombe dans les pièges de la consommation, de la mode, et les enfants, c'est les premiers. Puisque si déjà nous, en tant qu'adultes, on n'arrive pas à les enfants, encore moins. Donc, et mon fils, les problèmes qu'il a avec les jeux vidéo, c'est qu'à 3 heures du matin, 4 heures du matin, 6 heures du matin, il trouve des mômes de son âge, dans tous les bouts de la France, qui sont en train de jouer aussi. C'est dingue ça, mais je suis effarée, mais c'est comme ça. Alors je lui demande pourquoi il fait ça, et il me dit tout simplement, il s'ennuie. Donc les problèmes des gamins, ce n'est pas qu'ils deviennent addicts des jeux, c'est qu'ils s'ennuient, et nous les parents, on ne leur procure pas autre chose. C'est comme quand nous on était jeunes, et qu'on n'avait pas, je me rappelle de mon temps, la télé à 16 heures, c'était des programmes inintéressants, donc je ne la regardais pas. Mmh. Aujourd'hui, la télé, elle a toujours des programmes. Il y a des dessins animés à longueur de temps. À longueur de temps. Donc, l'enfant, il est, comment dire, il a accès à toutes ces choses tout le temps, quoi. Mmh. Avant, de mon temps, on lisait des livres. On ne jouait pas aux jeux vidéo, mais ça pouvait poser des problèmes aussi aux parents à l'époque, parce que les nanas, elles passaient leur temps à lire des arlequins, n'est-ce pas? Et aujourd'hui, c'est les jeux vidéo. Les nanas, ce n'est pas pour autant qu'elles attendaient toujours un prince charmant, mais elles étaient dans un autre monde. Mmh. Alors, ce que je voulais dire, c'est un témoignage, c'est que et souvent, c'est que les enfants s'ennuient quand ils sont trop sur les jeux vidéo. C'est une question d'ennui. Qu'est-ce qui se passe vraiment à la maison pour que l'enfant... c'est réfugié. Le mien, il est réfugié dans les jeux vidéo parce qu'il a des copains qui ne plaisent pas au père. Et on lui interdit de voir les copains, on l'interdit de sortir, on l'interdit de ceci, on l'interdit de télé. Bah, il se met dans sa console, il la branche sur Internet et il a des super potes qui disent des gros mots comme lui. Et il passe des heures à jouer avec des gens qu'il ne connaît pas, à qui il les dit des gros mots et qui ne se fâchent pas. Il n'y a pas de bagarre, il n'y a pas de conflit, tout le monde dit les gros mots, tout le monde est content, tout le monde se bagarre. C'est vraiment un monde virtuel. Et lui-même, il me dit, mais maman, c'est un jeu. Mais un jeu qui est à côté de la vie, mais qu'est-ce qu'on leur propose d'autre, après tout? Qu'est-ce qu'on leur propose d'autre?
Il y a les parents qui se donnent beaucoup de mal, hein, quand même.
Oui, à interdire.
Pas uniquement à interdire, non. J'ai entendu beaucoup de parents, j'ai participé à énormément de conférences comme ça, avec des parents sur ces sujets, et j'entends beaucoup de parents qui tentent de proposer d'autres activités maintenant. Et on en parlait avec ma collègue tout à l'heure à la pause. On se disait quand même que c'est compliqué. Hein. Même il y avait un papa tout à l'heure qui disait ça, c'est compliqué quand même d'être parent aujourd'hui. Il y a quand même une inflation de responsabilité. On est toujours occupé par quelque chose. Et pas uniquement, c'est pas uniquement le travail, c'est aussi des démarches administratives, des questions médicales, des ceci, des cela. Enfin, il y a quand même une inflation de responsabilité qui fait que les parents sont moins disponibles, peu disponibles, peut-être. Qu'à une certaine époque, j'en suis même pas si sûre. Après, vous avez soulevé aussi dans votre situation, enfin, vous pointez l'ennui. C'est passionnant l'ennui, hein. Enfin, moi, je trouve ça passionnant l'ennui. Mais les enfants ne s'ennuient plus. On ne les laisse pas s'ennuyer. C'est-à-dire que directement, un enfant qui vous dit je m'ennuie, hop, on lui file un truc dans les mains. Alors, ça peut être n'importe quoi, mais en tous les cas, on ne laisse pas les enfants s'ennuyer. On ne laisse plus les enfants s'ennuyer. Alors moi aussi, je vais parler de mon époque. À mon époque, quand je prenais la voiture pendant 7 ou 8 heures de suite pour me rendre dans le sud de la France, eh bien, pendant 7 ou 8 heures, on regardait, et j'ai des souvenirs de ça, de regarder par la fenêtre et d'essayer de trouver à s'occuper de cette manière-là, eh bien, c'est un sacré exercice. Je me souviens que quand il pleuvait, je comptais les gouttes d'eau. Voilà, enfin, je veux dire, on ne développe certaines capacités que si on fait vivre et éprouver aux enfants quelque chose de ce genre et de l'accepter. Je veux dire, c'est aujourd'hui, je crains que, en tous les cas, de ce que je peux voir moi autour de moi à Paris, je crains que ça soit nous, les parents, qui ne supportions pas l'ennui de nos enfants. Sans doute que c'est nous qui ne supportons pas une espèce de vide dans lequel on peut se retrouver parfois. Et alors on projette comme ça que notre enfant, il va s'ennuyer, etc., qu'il faut vite lui mettre un truc dans les mains. Et après, on s'étonne quelques années plus tard pour qu'en 5 minutes, ils nous disent « je m'ennuie ». Ah bon, tu t'ennuies déjà? Ben ouais, mais on ne les a pas non plus exercés à supporter cet ennui. Et qu'est-ce que c'est que l'ennui si ce n'est se retrouver avec soi-même? Alors évidemment, à l'adolescence, c'est encore plus compliqué, plus difficile à vivre, parce que se retrouver à soi-même, avec soi-même à l'adolescence, dans ce moment de métamorphose, d'incertitude, de remise en question, etc. Et puis, bon, c'est encore plus compliqué. Alors là, l'ennui prend toute sa place royale. Voilà. Donc c'est vrai que c'est un sujet passionnant, hein, que l'ennui. Il y a une dame devant. Hop, c'est parti derrière.
Bonjour, je suis maman de jeunes enfants et en fait, je suis là un peu pour voir, c'est mon avenir un peu. Donc du coup, quels sont les conseils par rapport aux écrans pour des enfants voilà, de 3, 2 ans, de 3, 5 ans je veux dire, je ne pourrais pas éviter la télé, je ne peux pas éviter la tablette. Je peux pas, ça va être évidemment tout ça, mais quelles sont les limites la télé par exemple, on sait très bien qu'il y a des images, comme vous dites, ils comprennent pas, ils interprètent mal, ils savent pas interpréter. La tablette, c'est un peu plus ludique parce qu'ils peuvent faire des puzzles dessus, ils peuvent faire des choses et d'autres. Donc qu'est-ce qui est bon, qu'est-ce qui est pas bon? On est parents, comme vous dites, on ne sait pas, c'est vraiment compliqué tout cela, et c'est sûr qu'on est les fautifs, ils ne savent pas s'ennuyer, on leur achète une tablette, ils ne savent pas s'ennuyer, ils s'ennuient, on leur met la télé, donc voilà, c'est que faire. Merci.
C'est une question difficile. Alors, il y a quelques points de repère aussi. J'avais parlé de pédagogie, tout ça, de s'informer. Il y a une règle qui a été édictée par des psychiatres qui dit 3, 6, 9, 12, enfin, qui vous donne un peu des repères. Alors, on dit pas d'écran avant 3 ans. Ma fille a 2 ans et demi, bientôt 3 ans. Il n'y a pas de télé chez nous. Et puis, je peux vous dire qu'elle est bien plus à l'aise que moi sur un écran. 2 ans et demi. Elle n'a pas vu tellement d'écran chez elle. Alors je me demande comment elle fait. Enfin, elle est exposée ailleurs, en fait. Hein, et ils ont cette familiarité qui fait que... Bon. Voilà. Donc la règle, c'était 3, 6, 9, 12. Pas d'écran avant 3 ans. Pas de jeux vidéo avant 6 ans. Pas de jeux vidéo seul avant 9 ans. Et pas d'Internet seul avant 12 ans. C'est... Bien sûr que, voilà, moi déjà, je me sens fautif parce que pas d'écran avant 3 ans, c'est râpé. Ma fille a vu des dessins animés, machin. Bon. On s'en arrange, mais cette règle-là, elle a l'avantage d'essayer de se donner des points de repère. Hein. De même qu'on ne met pas son enfant directement sur un vélo sans les petits trous, eh ben, il faut y aller petit à petit avec ses objets technologiques. Et il faut résister à la pression des pères qui disent « Oui, mais il a la DS. » J'adore cette console de jeu, la DS, c'est formidable comme nom quand même. Et il faut résister à la pression des pères et on sait que c'est pas facile. Le conseil que moi j'ai à vous donner par rapport à tous les écrans, c'est apprendre aux enfants à s'en décoller. Donc leur apprendre très tôt, c'est possible, tu peux regarder un dessin animé, mais à un moment donné, c'est d'interrompre et que ça soit possible et que ça se passe pas dans un grand coup d'éclat d'énervement, en tous les cas, réussir à arriver, prévenir, je vais éteindre, après ce dessin animé-là, j'éteins, ça va avoir lieu, etc., prévenir, et favoriser les pauses. Il faut favoriser la possibilité de faire des allers-retours entre les écrans et notre monde réel. Voilà. Il faut vraiment apprendre à faire des pauses. C'est la seule, parce que au niveau temps, au niveau... Pour tous les objets liés aux écrans, il faut apprendre à faire des pauses. À partir du moment où on sait faire une pause, eh ben, on saura se détacher sans trop de difficultés. Alors bien sûr, si vous déboulez ce soir auprès de votre enfant de 16 ans, que vous avez toujours laissé jouer comme il voulait, vous lui dites « tu fais une pause maintenant ». Ça va mal se passer. Ça va même être plus désastreux, mais... Voilà, donc pour des enfants aussi jeunes que les vôtres, résistez en tous les cas sur les outils. Ce n'est pas parce que, soi-disant, tous les enfants doivent avoir un téléphone à 9 ans. Qu'est-ce que c'est que cette histoire-là? Si pour vous, dans votre idée, bah, votre enfant, il doit avoir un téléphone plus tard, il faut tenir bon. Ce n'est pas facile. Ils sont très, très forts pour nous faire céder. Mais il faut tenir bon et faire des pauses. Faire des pauses.
Et moi, je vous inviterais à vous intéresser aux jeux aussi et à jouer avec eux. Parce que, en fait, ce qu'on constate aussi, c'est qu'il y a une fracture générationnelle, qu'ils apprennent, comme tu le disais, ils en savent plus que nous, finalement, assez rapidement. On est plus vite dépassés, enfin, vu le nombre de jeux, etc. Et ce qu'on constate, c'est qu'à l'adolescence, ils cherchent toujours des objets pour botter en touche les parents. Pour être à l'extérieur, des copains qu'on ne verra pas, et que les jeux, finalement, à partir du moment où on s'y désintéresse, enfin voilà, ils ont tendance à utiliser aussi notre désintérêt et notre non-connaissance. Donc, d'aller voir ce que c'est, d'aller peut-être découvrir leur avatar, enfin de maintenir le dialogue avec eux autour de cet objet-là, ça, je pense que c'est très important. On va prendre une dernière question, je crois.
Je parle, oui. Oui, alors moi, je veux juste faire écho un tout petit peu au témoignage de la dame. Et puis après, j'ai une question inquiétude au bout. Question inquiétude. Alors d'abord, c'est vrai que c'est très difficile d'être parent. Mais qu'à certains moments, on se croit tout seul quand on met des limites. Mais que quand on prend le temps d'en discuter avec d'autres... on se retrouve à plusieurs avec, à avoir les mêmes inquiétudes. Et quand on en parle à plusieurs, on se sent peut-être un peu plus fort pour les imposer. Mais qu'avant tout, je crois que, comme vous dites, ça commence petit. Mais même quand on n'a pas commencé petit, on peut quand même les instaurer un peu en douceur à un moment. Mais par exemple, je ne juge rien, je dis juste ça. Moi, enfin, nous, chez nous, par exemple, à la maison, mon mari a mis des outils en place qui font que, parce qu'on avait eu l'expérience du grand, eh bien, c'est plus nous qui allons arrêter comment dire, le service Internet à une heure précise, mais on l'a mis en place, un outil avec un programme. Et c'est l'outil qui va mettre. Donc déjà, les règles ont été posées et la gestion a été plus facile pour le deuxième que le premier parce que justement, le premier, c'était directement mon mari, donc il se retrouvait en face et c'était le conflit. Mmh. Là, avec l'outil...
Avec un
tiers qui est l'outil. Mais
oui. Qui peut être la pendule, qui peut être l'agenda. Hein, parce que les enfants, c'est ce qu'on leur dit quand même. On passe
tout à fait. Au début, oui, mais voilà, ça, c'est ce qu'on a fait. Mais c'est vrai que malgré tout, l'agenda, c'est vous qui le rappelez. Parce que ce n'est pas lui qui le fera. Vous allez dire, voilà, tu as vu l'heure. Et ça, au bout d'un moment, ça ne colle pas. Avec les années, ça colle beaucoup moins. Qu'avec un outil qui va arrêter. Voilà, il y a des tranches horaires. On a posé les règles au début. Donc, on ne se retrouve pas avec un enfant qui va se lever pour jouer parce que lui, son ordinateur va être... Enfin, bon, bref, après, il y a plein de façons de piloter, mais sans rentrer dans les détails techniques. Mais il y a ça. Et c'est vrai qu'on s'est rendu compte à certains moments... Alors, le téléphone, nous, on fait certainement partie des parents très réfractaires, je ne sais pas, mais bon, peu importe. En tous les cas, on s'est rendu compte que tout le monde avait un téléphone, que tous les enfants avaient un téléphone dans la classe. Et puis, en fait, en posant des questions à d'autres, ce n'était pas tout à fait le cas. Bref, donc, on n'était pas si isolés que ça. En tous les cas, nous, on a mis... il y a des choses qu'on a eu à assouplir à certains moments. Il ne faut pas non plus rester trop rigide. Il faut voir que les choses évoluent avec les années. Enfin, bref. Voilà, tout ça, c'était juste pour faire écho au témoignage. Et moi, mon inquiétude, je sais bien ce que vous avez dit tout à l'heure, que les jeunes, quand ils jouent, ils tuent des pixels. Ouais. Mais moi, je me suis aperçue qu'il y avait aussi un langage qui commençait à flotter un peu et que le message à faire passer, c'est « je ne tue pas des gens, je tue des pixels ». Et j'ai peur que ce soit une façon de nous endormir. Quand, je ne sais pas, je dis ça pour nous, quand je dis « nous endormir », je m'entends. Je veux dire pour que ça passe dans notre idée, qu'on soit plus à l'aise, qu'on soit plus détendu avec cette idée-là. Mais moi, mon inquiétude, c'est quand même de dire qu'il y a quand même des images... comment dire que ces joueurs, je ne vais même pas parler des jeunes, voient des actes qu'ils font sur ces images, même si ce ne sont pas des personnages réels. Et j'ai peur qu'à un moment, comme vous dites, on est capté par les lumières. Et ce qui m'a frappé, c'est, sans rentrer dans trop de détails, c'est aussi par rapport à tous ces écrans, c'est les problèmes avec tout ce qui peut être la maladie là.
Je trouve plus.
L'épilepsie.
Ah oui.
Voilà. Et donc, on voit à quel point ces lumières, ces images peuvent influer au niveau du cerveau, puisque c'est pour des personnes qui sont sensibles, ça peut déclencher des crises d'épilepsie. Mmh. Hein, c'est une réalité, oui, je peux vous le dire. Enfin, voilà. Donc, je me dis que chez d'autres qui n'ont peut-être pas cette sensibilité-là, sentir que ça déclenche des crises d'épilepsie, mais est-ce qu'à certains moments dans la vie réelle, ça ne peut pas déclencher des images, en rentrant dans le subliminal, voilà, qui fassent qu'à certains moments, sans parler des faits divers dont vous avez parlé, mais que ça déclenche quand même des actions, des comportements.
Alors, essentiellement, ce n'est pas une bonne nouvelle hein, pour tous ceux qui sont restés. Alors, essentiellement, si c'était le cas, il y aurait beaucoup de morts. Déjà, parce qu'il y a énormément de gens qui jouent à ce type de jeu, là, les FPS. Il y a plein de gens qui ont joué ou qui jouent encore, et de tous les âges. Hein, c'est vraiment pas réservé... une minorité. Donc, il y aurait déjà des morts, je pense, si c'était vraiment le cas. Par contre, ce qu'on sait, et ça, c'est pas la bonne nouvelle, c'est que visiblement, si les jeux vidéo ne rendent pas violents en soi, dans la réalité physique et matérielle, par contre, ils créent une sorte, comment dire, de tolérance à la détresse de l'autre, de désintérêt de la détresse de l'autre. Ça veut dire que on est, ce que ne favorise pas, en tous les cas, le jeu vidéo, c'est l'empathie. Et ça, c'est quand même une très mauvaise nouvelle. C'est-à-dire qu'on accepte que l'autre soit souffrant, même dans la réalité physique et matérielle. Ça banalise. En tous les cas, il y a un processus qui se met en route là par rapport dans notre rapport à l'autre. On s'en fout un peu plus qu'il soit mal. Voilà. Donc ça, c'est la très mauvaise nouvelle, je trouve. Mais je vous remercie pour votre témoignage, en tous les cas, d'avoir expliqué ce cheminement. Et c'est vrai que c'est très utile d'avoir un tiers automatique pour permettre un peu
de faire en sorte que ça soit pas, le conflit ne soit pas direct. Ouais.
Je ne sais pas si on a le temps de prendre une autre question au vu du train à prendre.
Il n'y en a pas tant que ça.
Donc je m'excuse, je pense qu'on va s'arrêter là. Par contre,
c'est frustrant encore.
Oui. Tu frustres ? Allez, une dernière. Allez.
On fera vite. Hein,
que... Ça va être dur pour moi, l'adolescence. Ça va être très, très dur.
Je voulais vous parler, c'est du côté positif. Il y a des choses qui sont très positives. Et moi, je dis, j'ai eu des enfants, j'ai eu 3 enfants. Et normalement, j'avais peur. J'avais peur de l'écran. Et ton petit, ils n'ont jamais eu la télé. Le droit à voir la télé, tout était très limité. Mais mon frère, qui est ingénieur en informatique, m'a dit, non, tu peux pas faire ça. Tu dois les préparer à la vie d'adulte. Tu dois t'en servir. L'écran, ce n'est pas ton ennemi, ça doit être ton ami. Et bon, les enfants, ils ont commencé de bonne heure, mais... il y avait des programmes que normalement j'aurais jamais laissé voir, mais le fait que la fille le voyait en anglais ou en allemand, ça me plaisait. Mmh. Et elle était dans une classe européenne et ça lui a servi à quelque chose. Mon fils, quand je le voyais jouer ces jeux en réseau et qu'il avait cette facilité d'échanger de l'espagnol à l'anglais, au français, à l'allemand, moi je me disais, bon, si on surveille, si on ne laisse pas dépasser, ça sert à quelque chose. Aujourd'hui, ils sont à l'université. Ça me fait plaisir que quand ils font la recherche, l'un qui fait les finances, l'autre qui fait le droit, ils utilisent l'Internet et comme ça, je m'économise beaucoup de bouquins, c'est vrai, au niveau libre. Alors, s'il y a quelque chose que j'ai appris, c'est que l'écran, ce n'est pas un ennemi, c'est un ami, mais par contre, c'est vrai qu'il faut savoir canaliser ça. Voilà.
Merci.
Merci beaucoup.